présenté par Eve Martha.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on revient sur la potentielle fermeture de l'INSPE avec Nolan, qui était stagiaire à la rédaction, la semaine passée. Il interviewait Vincent Villemain, maître de conférences et co-directeur du département Histoire de l'Université du Mans. Et puis, après avoir parlé d'Arctic Monkeys et puis d'Alexandra Savior plusieurs fois dans l'amphi, j'avais envie aujourd'hui de parler de The Last Shadow Puppets. Avant tout, on écoute, Cross the Street de Junior Varsity. Hey!
Nous recevons aujourd'hui dans l'amphi Vincent Villemain pour évoquer la non-ouverture du master enseignement et éducation du second degré, remplaçant l'ancien master métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. Bonsoir Vincent Villemain.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université du Mans, ainsi que co-directeur du département d'histoire. Pour revenir sur votre parcours, vous avez intégré l'Université de Lille en 2001, vous obtenez votre CAPES en 2003-2004, vous décrochez ensuite votre agrégation à Lyon en 2005, puis vous continuez vos études avec un master à Paris en sciences historiques, philologiques et religieuses jusqu'en 2006, puis de 2006 à 2011, vous préparez un doctorat à l'École pratique des hautes études. En parallèle, vous êtes maître de conférences à Lyon, puis Paris, ainsi que professeur dans un collège et chercheur. Puis vous terminez par arriver au Mans en 2014. Pourquoi le Mans ? Vous avez fait de grandes villes comme Lyon ou Paris. Pourquoi finir à l'Université du Mans ?
Alors juste préciser, hein, j'étais pas maître de conférence à Lyon.
Juste d'être maître de conférence, en quoi consiste ce rôle exactement ?
Bah, ça consiste en beaucoup de choses, gérer à la fois les formations des étudiants, s'intéresser évidemment au renouvellement des postes, s'intéresser également à tous les problèmes financiers de l'université, ça... Une responsabilité importante avec des tâches extrêmement variées. que j'ai la chance de partager actuellement avec mon collègue Emmanuel Jean. C'est un peu moins lourd comme ça.
Le cadre de la formation pour devenir professeur a connu cette année beaucoup d'évolutions. Pourriez-vous nous éclairer sur les changements apportés et nous expliquer comment maintenant aborder les concours, quelles sont les nouvelles démarches à faire?
Oui, une réforme des concours a été lancée il y a de cela 3 ans. Elle a été interrompue, il y a eu un moratoire en raison des élections anticipées il y a 2 ans, puis elle est entrée en vigueur cette année. Le principe est assez simple, repose sur deux éléments principaux, hein. Passer le concours non plus en master comme c'était le cas auparavant, mais le passer en troisième année de licence, pour intégrer ensuite un nouveau master qui va s'appeler le M2E, comme vous l'avez rappelé, et dans lequel les étudiants seront désormais partiellement rémunérés la première année, puis rémunérés comme stagiaires la seconde année. Donc l'idée, c'était de renforcer l'attractivité des métiers d'enseignement, qui souffrent actuellement d'un déficit dans de nombreuses matières de vocation. Et donc, ils considéraient qu'en recrutant plus tôt et en formant et en rémunérant les futurs professeurs, ça améliorerait la qualité du recrutement. Le premier souci que ça a pu poser, c'est de savoir en fait qui avait accès au M2E. Et en théorie, ont accès au M2E que les lauréats du concours de troisième année. Alors évidemment, on sait que c'était mon cas par exemple pour l'agrégation, on sait bien que tout le monde ne réussit pas du premier coup un concours. Et pour pouvoir le repasser, il faut avoir évidemment une formation dédiée. Et le premier problème, évidemment, c'était qu'il n'y a pas de formation dédiée. Quand on a validé sa licence d'histoire, on n'a pas la possibilité d'aller dans aucune formation pour pouvoir passer le concours. Et le deuxième élément, évidemment, c'est que en ouvrant donc le master uniquement en lauréat, on réduit considérablement la masse des étudiants présents. Actuellement, en master MEF, on tourne en histoire, géographie, au Mans, autour de 25 étudiants en première année, une vingtaine en deuxième année. Donc on a évidemment la masse critique pour pouvoir ouvrir une formation. Et là, évidemment, en ne prenant que les lauréats, on va se retrouver avec des petits effectifs. Et c'est ce qui justifie, pour certains, évidemment, la fermeture de certains sites. C'est le problème au Mans, hein. C'est la menace, évidemment, qui pèse actuellement très fort sur le site du Mans.
Et justement, vous le rappelez, récemment, il y a eu une annonce sur la possible fermeture de l'INSPE du Mans. Pourquoi une telle décision? Est-ce que c'est un problème de budget? Ou justement, comme vous le rappelez, est-ce que c'est vraiment un réel problème au niveau des effectifs, parce qu'il n'y aurait pas assez de monde?
Alors ça doit avoir un problème de communication, hein, parce que début d'année, on nous a certifié que la formation allait se poursuivre au Mans en histoire-géographie comme dans les autres matières. On a même planché sur des nouvelles maquettes, hein, puisqu'il s'agit donc de revoir évidemment le contenu de l'enseignement, puisqu'avant on préparait un concours, maintenant le concours est déjà passé, donc évidemment on n'enseignera pas la même chose. Donc on a travaillé là-dessus, et on a fini par apprendre le fin avril, hein, que l'INSPE envisageait de ne pas ouvrir de formation au Mans du tout, à part éventuellement en lettres et encore dans un scénario plus souple, disait-il. Alors, c'est un problème d'effectifs, effectivement, parce que il y aura de faibles effectifs, mais disons que c'est une façon de tourner les choses, dans la mesure où les étudiants vont être rassemblés pour à peu près 2/3 de la formation, toutes disciplines confondues. Donc en fait, on aura bien une groupe d'une 15-20 personnes, lauréats en lettres, lauréats en histoire, lauréats en anglais, lauréats en EPS, qui auront les 2/3 de leurs cours ensemble. Donc là, on a évidemment la masse critique. Et pour 1/3 de la formation, donc qui sera disciplinaire, histoire, géographie, anglais, EPS ou lettres, là effectivement il y aura du coup des cours en petits effectifs. Donc c'est des choix, hein, à faire, et en l'occurrence l'INSPE, la direction de l'INSPE à Nantes, et probablement d'ailleurs les élus de l'Université de Nantes, en particulier le vice-président formation de Nantes, considèrent que voilà, on ne doit pas mettre d'argent, c'est du gaspillage d'argent public que d'ouvrir ces formations-là. Donc nous, on est évidemment, quand je dis nous les porteurs de la pétition pour défendre le site du Mans, on a évidemment une vision complètement différente, hein. On envisage décentralisation, on envisage évidemment ouverture, y compris aux classes populaires, parce que ça a un coût, les études, hein. Et aller faire ses études à Nantes pour pouvoir ensuite se destiner à être enseignant, c'est évidemment quelque chose de compliqué pour certaines familles. Et puis, on sait aussi qu'il y a parfois des vocations qui s'ouvrent. On commence ses études au Mans, et puis finalement, on s'intéresserait peut-être au carré d'enseignement, et puis on découvre que ça n'est plus possible, qu'il faut aller à Nantes, où le coût de la vie n'est pas le même, etc. Donc là, évidemment, c'est quelque chose que nous, on considère comme inconcevable, et on pense qu'il faut faire ces sacrifices dans l'intérêt de l'aménagement du territoire à l'échelle régionale.
Et pourtant, on est dans un contexte où il y a une crise du recrutement dans l'enseignement. Est-ce que c'est un peu contradictoire, justement, de vouloir fermer cet INSPE et voilà, de vouloir le fermer, quoi.
Alors, l'INSPE ne fermerait pas complètement, hein, parce que l'INSPE conserverait la formation des enseignants du premier degré, donc les professeurs des écoles, hein, ex-instituteurs et institutrices. Donc, elle conserverait ça. Donc, évidemment, ça veut dire aussi qu'il y aura une compression, évidemment, des collègues travaillant à l'INSPE, hein, puisque, évidemment, assez rapidement, il y aura beaucoup moins d'heures à assurer. Donc, elle ne fermerait pas complètement, mais effectivement, on ne peut pas dire, comme vous avez tout à fait raison de dire, que c'est certainement pas en concentrant les formations dans un nombre réduit d'universités ou d'INSPE en France qu'on va favoriser les vocations. C'est clair que pour en avoir discuté avec nos étudiants et les étudiantes actuellement admissibles, hein, qui découvrent la situation, sans doute qu'ils auraient foncé, vu les choses différemment, s'ils avaient appris dès le départ que la formation ne serait pas disponible au moins. On a quand même un petit espoir à présent, puisque la pétition a, semble-t-il, un peu porté ses fruits. Hein. Les derniers échos que nous avons eus à travers la presse du directeur de l'INSPE disent maintenant qu'il y aurait un troisième scénario, en quelque sorte. S'il y a un nombre suffisant de lauréats, donc en l'occurrence par discipline, il est fixé à 3, dans ce cas, on pourrait ouvrir un M2O au Mans. Donc, comme on a une confiance absolue dans la qualité de nos étudiants admissibles, on espère bien, évidemment, qu'on atteindra cette masse critique et qu'ils tiendront leur parole et qu'on pourra ouvrir un M2E en histoire géo, en lettres, en anglais, en EPS à la rentrée prochaine.
Et ça, c'est grâce justement au nombre de signataires que vous avez eu. Vous avez eu, du coup, beaucoup de signataires.
Les signataires, oui, bien sûr. Et puis, une émotion assez large. Hein. Vous nous recevez aujourd'hui, mais il y a également beaucoup de médias Manceau qui se sont émus de la situation, qui nous ont invités, qui nous ont donné la parole, à nous, aux étudiants. Les politiques aussi ont réagi assez vivement. Hein. La mairie du Mans s'est tout de suite rangée auprès de nous. Les députés, la députée Marietta Caramanlin nous a également envoyé un courrier de soutien. Donc on sent bien que voilà, dans un contexte où la ville du Mans essaye de développer son université, avec en particulier l'ouverture d'une licence de psychologie, qui rentre complètement dans la logique en fait d'aménagement du territoire, d'ouverture vers les classes populaires, hein, parce que cette licence de psychologie, elle était pensée en considérant qu'en fait, on avait énormément de Sartois, mais également de Mayennais et de Mayennaises, éventuellement de gens du sud de l'Orne, qui en fait voulaient faire psychologie et sont obligés donc d'aller dans des universités assez loin de leur domicile. Et donc, en constatant ça, on s'est dit, il faut ouvrir cette formation-là. Et ça a énormément de succès, on va ouvrir à la rentrée, on a eu énormément de candidatures. Et donc, la ville du Mans se félicitait des efforts que nous fournissons pour ouvrir cette licence de psychologie. Il y a peu que constater que, même si ce n'est pas une masse énorme d'étudiants, les étudiants en master enseignement, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être quand même des dizaines, voire des centaines d'étudiants qui ne viendront pas en L1 chez nous, parce qu'ils sauront au préalable qu'ils ne pourront pas faire l'ensemble de leur cursus sur le site du Mans. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a particulièrement choqué les élus de la ville du Mans, cette décision.
Le fait aussi qu'on recentre tout sur Nantes, c'est-à-dire que la présence du master enseignement et éducation du second degré sera exclusivement à Nantes, ça va renforcer le nombre d'étudiants sur Nantes, ça pourrait peut-être même d'ailleurs poser des problèmes, que ce soit financiers ou même pour d'accessibilité pour certaines familles.
Alors d'accessibilité pour la famille, c'est évident. À l'échelle de l'université, j'ai pas échangé suffisamment avec les collègues nantais, mais c'est vrai que dans la première version, à part une ou deux formations, notamment une formation en espagnol à Angers, la totalité des autres formations étaient concentrées à Nantes. Donc de fait, hein, c'était à l'échelle régionale le retour en fait du centralisme parisien, en quelque sorte, avec un centralisme nantais. Donc on comprend évidemment le souci de Nantes de briller à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, hein, mais on considère que reproduire à l'échelle régionale les effets de la centralisation parisienne, c'est quand même pas une excellente idée. C'est une idée un peu du passé, quoi.
Bien sûr. Pour rappel, on a parlé du coup de la situation financière des étudiants. Elle ne s'améliore toujours pas. D'après même un sondage Ipsos, on a 69% qui reste seulement 100 euros à chaque mois, soit 3,33 euros par jour pour se nourrir, se soigner, s'habiller ou même se divertir. 22% ont envisagé ou même envisagent de mettre un terme à leurs études à cause de leurs difficultés financières. Et 76% des étudiants précaires limitent la quantité des aliments qu'ils consomment et même 65% d'entre eux sautent au moins un repas au cours de la semaine par faute de moyens. des chiffres alarmants, forcément. Est-ce que pour vous, centraliser les masters dans les grandes villes contribue à la dégradation financière des étudiants ?
Bah, complètement. Là, tout récemment, je m'écarte un peu de la question, mais je vais revenir. Le journal étudiant a publié un classement des meilleures villes et universitaires en France pour les étudiants. Donc, il y a un grand nombre de paramètres qui sont retenus. Et Le Mans est classé, je crois, autour de la 20e place, donc pas si mal que ça. Alors, il y a des notes un peu négatives, c'est pas suffisamment grand. Il n'y a pas suffisamment d'étudiants, par exemple, c'est un paramètre important. Il faut qu'il y ait 10% de la population qui soit étudiante. Mais par contre, il y a aussi des points positifs à être étudiant au Mans, et le principal point positif, c'est le coût des loyers. Et très clairement, là-dessus, on a 9 sur 10 de ce point de vue-là, coût de la vie, coût des loyers. Donc, toute évidence, si vous allez faire vos études à Nantes, vous pouvez rajouter 30-40% au prix du loyer. Et je ne parle évidemment pas de Lyon ou de Paris. Donc c'est une évidence qu'on a besoin de ces formations de proximité, des formations où le coût de la vie est moins cher, des formations aussi où, pour certains étudiants ou étudiantes, il y a la possibilité de faire des allers-retours domicile-travail aussi. Ce qui est possible, ce que font certains de nos étudiants, hein, parfois de très loin. Donc il y a un coût évidemment aussi sur le plan évidemment de les déplacements de la voiture la plupart du temps ou du train. Mais ce coût reste moindre par rapport au fait de louer un appartement et de devoir évidemment également... subvenir à ses besoins en termes de nourriture. Donc on a besoin de ces formations de proximité pour des étudiants qui viennent de familles plus modestes que d'autres.
Mais les étudiants ne sont pas les seuls touchés, notamment aussi par cette fermeture de l'INSPE. La délocalisation du master à Nantes met en péril de nombreux postes au sein de l'Université du Mans, une conséquence mise en avant dans la pétition mise en place pour éviter la fermeture. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a combien à peu près d'emplois qui seraient... mise en péril à cause de cette fermeture ?
Alors c'est difficile à dire pour le moment, pour en avoir discuté un peu avec les collègues de l'INSPE, hein, parce que c'est évidemment eux qui seraient touchés dans un premier temps. Il y aura un temps de transition, l'année prochaine il y a encore les masters de MEF à qui faire cours, hein, et ensuite les années d'après vont évidemment être des années de vache maigre. Le problème des collègues de l'INSPE, c'est qu'ils ont un peu toujours une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ce sont des collègues qui, pour la plupart, sont détachés du second degré, en fait. Donc, ils n'ont pas toujours trop intérêt à revendiquer, puisqu'ils craignent, évidemment, la possibilité d'être les premiers à être choisis pour être envoyés dans des collèges ou dans des lycées. Ils préféreraient, évidemment, rester à l'INSPE. Donc, ils ont discrètement, évidemment, ils nous ont soutenus. Ils ne voulaient pas le dire trop fort, mais la plupart, est évidemment, de cœur avaient... plein cœur avec nous pour autour de cette pétition, mais ils avaient un peu des difficultés évidemment à pouvoir l'afficher publiquement. Mais pour eux, clairement, actuellement, si la situation du premier scénario qui avait été évoqué fin avril se confirmait, il y aurait très certainement pas suffisamment d'heures pour conserver l'ensemble des collègues.
D'accord. J'ai demandé du coup à deux étudiants de Le Mans Université si elles avaient des questions en rapport avec la fermeture du master. On écoute la première question et on vous laisse y répondre.
Si il y a une fermeture, qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les étudiants inscrits pour la rentrée 2026, mais aussi pour les futurs étudiants ?
Alors, ce que ça va changer, c'est que vous pourrez passer le concours en L3 dans notre université, hein, comme dans n'importe quelle université. Par contre, vous êtes sûre et certaine que, une fois le concours obtenu, vous ne pourrez pas suivre le master sur les sites du Mans. Donc, il faudra aller soit à Nantes, soit dans une autre ville disposant d'un M2E, donc Tours, bien sûr, je parle des villes à proximité, Rennes, Caen, mais pas dans des petites universités comme la nôtre, tout est relatif, hein, qui offre évidemment un niveau de vie un petit peu inférieur à celle de ces grandes villes.
On passe à la deuxième question.
Est-ce que le bâtiment de l'INSPE va être utilisé pour d'autres projets d'études ?
Alors c'est une excellente question aussi, c'est difficile d'y répondre. Alors le bâtiment de l'INSPE d'abord appartient à l'Université du Mans, c'est par une convention, une co-accréditation signée avec l'INSPE à Nantes que le bâtiment leur est dévolu. Donc c'est un bâtiment de l'Université du Mans utilisé par l'INSPE de Nantes pour ses formations. Donc elle continuerait de servir pour les cours de la LPE, donc cette nouvelle licence professorat des écoles qui a été créée dans le cadre de cette réforme. Une licence donc, qui est censée préparer au professorat des écoles, mais qui n'ouvre que 25 ou 27 places, je ne sais plus, sur l'Université du Mans et dans chacune des 5 départements de la région Pays de la Loire, c'est-à-dire infiniment moins en fait que le nombre d'étudiants qui souhaiteraient en fait pouvoir devenir professeur des écoles. Donc ça, c'est encore un autre problème, évidemment, hein, ce sous-dimensionnement de cette LPE. Mais l'INSPE accueillera la première année de cette LPE l'année prochaine. Elle accueillera encore, évidemment, pour le moment, les masters 2 MEF, hein, donc la toute dernière génération. Et elle accueille aussi régulièrement des formations d'enseignants du second degré. Mais c'est vrai qu'on aura des bâtiments qui risquent de sonner un petit peu creux si encore une fois, le plan A, le premier scénario de fin avril, est finalement choisi à la rentrée prochaine.
Une autre étudiante aimait vous poser une question. On l'écoute.
Quelle sera la prise en charge des étudiants qui échoueront aux EuroCAPES et qui n'ont pas de Master M2 sur la plateforme Mon Master ?
Oui, c'est là aussi une question extrêmement épineuse. Je l'ai évoqué tout à l'heure au début de l'interview, hein, le fait que les M2E n'accueillent pour la plupart que des étudiants lauréats du concours. Et donc pour les étudiants non lauréats qui ont validé leur licence, se pose la question de trouver une formation. Ils devraient ouvrir, hein, c'est une promesse de l'INSPE à Nantes, mais évidemment on reste prudent, ils devraient ouvrir, non pas à la rentrée prochaine, mais dans 2 ans, un master dédié aux non-lauréats. Mais pour l'année prochaine, on a dû trouver des solutions. On propose aux étudiants soit de s'inscrire dans un master qui soit pas le master de leur choix, mais qui leur permette d'avoir évidemment une carte d'étudiant, conserver leur bourse et pouvoir repasser les concours, ou éventuellement de s'inscrire dans une autre licence que la licence dont ils proviennent. Hein. Donc, s'ils étaient en histoire, ils peuvent s'inscrire en lettres ou en anglais. Et donc là aussi, sécuriser une inscription à l'université, une carte d'étudiante, éventuellement une bourse, et donc pouvoir repasser le concours relativement sereinement. Mais on essaye de faire au mieux, mais évidemment, on est conscient que ça n'est pas du tout, idoine, ça n'est pas du tout parfait. Certaines universités, enfin certaines ISP, notamment Orléans-Tours, a fait le choix d'ouvrir des parcours non lauréats. Mais là, les résultats de mon master, hein, donc l'équivalent de Parcoursup, mais pour les masters, viennent de tomber. Et évidemment, compte tenu du faible nombre de ces masters non lauréats, il y a beaucoup, beaucoup de déçus.
Et on passe à la dernière question.
Comment allez-vous vous organiser l'année prochaine pour la préparation du CAPES avec les L3, vu qu'il n'y a pas pour l'instant de master ? Et est-ce que cela aura comme conséquence une perte d'étudiants en licence d'histoire qui souhaiteraient devenir professeurs et qui vont aller ailleurs car il n'y a pas de master derrière ?
C'est difficile à dire dans l'immédiat, mais c'est évidemment ce qu'on croit. On est convaincu que l'absence de master va nous pénaliser sur la longue durée, hein, que des familles choisiront d'envoyer, des familles évidemment plutôt aisées, choisiront d'envoyer leurs enfants à Nantes ou à Tours ou à Caen ou à Rennes, considérant qu'évidemment c'est mieux, y compris socialement, de pouvoir faire ses études sur un même site sur la longue durée. Hein. C'est jamais très facile quand on a fait une licence quelque part d'arriver dans un master où les gens se connaissent tous. Évidemment, faut refaire son trou, faut refaire de la sociabilité, c'est pas évident. Donc oui, on est assez convaincu que ça va nous priver d'un certain nombre d'étudiants. Pour la préparation, on a heureusement des collègues qui sont extrêmement dévoués, hein, et qui sont occupés de transformer la formation pour être au plus près des exigences de ce nouveau concours. Hein. C'est un concours qui en histoire est compliqué, puisqu'en gros le programme, c'est à peu près tout programme de l'enseignement secondaire. Donc c'est évidemment difficile de pouvoir couvrir l'ensemble, et avec évidemment une grande part de géographie. Donc mon collègue Vincent Coriol, qui pilote cette formation, a fait le choix donc de mettre essentiellement des cours de géographie cette année pour combler les manques de nos étudiants en la matière, et ça a plutôt bien marché, hein, parce que sur les 11 étudiants qui sont présentés au CAPES d'histoire-géographie, on en a 7, hein, qui sont admissibles, ce qui est plutôt évidemment un résultat positif, et on espère avoir évidemment de nombreux admis pour essayer de sauver le M2E grâce à eux, grâce à elles.
Merci beaucoup. Je pense maintenant que nous avons fait le tour du sujet. Merci Vincent Villemain d'avoir accepté de nous éclairer sur ce sujet.
Merci à vous pour l'invitation.
Votre intervention a peut-être permis à certains d'avoir une meilleure compréhension des décisions et des conséquences de la non-ouverture Master Enseignement et Éducation du second degré. Au revoir.
Merci, au revoir.
On fait une petite pause musicale. On écoute What Went Down de Falls.
Hole in the ground with the lights and the roses and the cowards down. Call them, they call you when they need something. Trees for the blunt, to G's for the front. I found a way to get peace of mind for years and left the hell alone. Turn a deaf ear to the cellular phone. Send me a letter or better, we can see each other in real life. Just so you can feel me like a steel knife. At least so you can see the white of their eyes. Bright with surprise once they finish spitting lies. Associates is your boys, your girls, bitches, niggas, homies. Close, but really don't know me. Mom, dad, comrade, peeps, brothers, sisters, duns, dunnies. Some come around when they need some money. Others make us laugh like the Sunday funnies. Fam, be around whether you pay the bummy. You can either ignore this advice or take it from me. Be too nice, some people take you for a dummy. So nowadays, he ain't so friendly. Actually, they wouldn't even made a worthy enemy. Read the signs, no feeding the baboons. Seeing as how they got your back bleeding from the stab wounds. Y'all know the dance, they smile in your face, y'all know the glance. Try to put them on, they blow the chance. Never let your so-called mans know your plan. A show of hands is a term some people use loosely. I'm real choosy on what I choose to let crew see. You telling me I try to act broke? Jealousy the number one killer among black folk. Fellas be under some type of spell like crack smoke. Ghetto Cinderella's leading right to your stack, loke. Just another way a chick will lead to your end. I checked the dictionary for the meaning of friends and said, person one likes to socialize with, sympathize a helper, and that's about the size of it. Most of the time these attributes is one-sided. To boast of the crime, they apt to shoot you through your eyelid and they can't hide it. Going wild like a wow bitch. Sometimes you need to cut niggas off like a light switch. And when things get quiet, catch them like a thief in the night. What a right. I first met Mr. Fantastic at an arms deal. Don't let it get drastic, think of how your moms will feel. When it get for real, still get to sparking. Everything darkened, it ain't no talking. For something so cheap, it sure buys a lot of trouble. They better all focusing and trying to plot to bubble. Or else it'd be a sad note to end on. The guns we got is some come in the form of codependence. A lot of times only end up being co-defendants. 10 bucks say they tell for a lower sentence. They leave you up under the jail begging for repentance. It don't make no sense. What happened to the loyalty? Honor amongst crooks, trust amongst royalty. I'd rather go out in a blaze than give them the glory. A similar story, the four lovers. We need to have some type of overstanding. Just so when I let her get the man thing, she know it's no strings. We could do the damn thing, but ho, it's no rings. Just how the tramp swings. Will she see him again? That depends on how good was the skins and could she memorize the lessons. It ain't no need to pretend. Even though she let him stab it, she know they just win.
Nice neighborhood I move into, you guys will get crack.
Negro humor always escaped me. The most powerful, the most mysterious monarch in all the world. Guarded by a fighting force that never sleeps, that never relaxes its vigilance. For none is as feared, none has as many foes as Doom. The awesome armor-clad Lord of...
I know who Doom is.
Then tell us.
He happens to be the most dangerous man in the world. I hoped we'd never hear from him. Hoped we'd never have to battle him. But now the worst has happened, and I must tell you what we're up against. I first met Doom years ago, for he wanted to be alone. Alone to pursue his forbidden experiments. One day, while conducting a secret experiment, later, when he recovered from his injuries, instead of having learned his lesson, Doom was bitter, angry, vengeful.
What have I done to myself? My face, it is hideous.
He traveled the world, seeking a cure for his disfigured face.
I'm sorry, sir. There is nothing we can do for you.
He traveled through remote villages where strangers are seldom seen. He continued his search, never showing his face, unless threatened by bandits who prey on travelers, who foolishly wander alone through their domain.
Aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, je vous parle du groupe The Last Shadow Puppets. C'est un groupe qui occupe une place un peu à part dans le paysage du rock britannique contemporain. Derrière ce nom se cachent deux figures majeures de la scène anglaise, Alex Turner, connu comme le leader d'Arctic Monkeys, et Miles Kane, ancien chanteur du groupe The Rascals et membre de Little Flame. Lorsque l'on évoque les projets parallèles d'artistes célèbres, on pense souvent à des expériences temporaires ou à des parenthèses créatives, voire solo. Pourtant, The Last Shadow Puppets est bien plus que cela. Ce projet a permis à ces deux fondateurs d'explorer un univers musical très différent de leurs groupes respectifs en mélangeant rock, pop, orchestral et influence cinématographique. L'influence commence au milieu des années 2000. À cette époque, Alex Turner connaît déjà un immense succès avec Arctic Monkeys. Le groupe est devenu un phénomène grâce à son premier album qui a battu plusieurs records de ventes au Royaume-Uni. De son côté, Miles Kane se fait remarquer sur la scène indé britannique. Les deux musiciens se rencontrent lors de tournées et développent rapidement une amitié fondée sur leur passion commune pour la musique des années 60. Ils partagent notamment leur admiration pour des artistes comme Scott Walker, David Bowie ou encore Serge Gainsbourg. Ensemble, ils imaginent un projet capable de rendre hommage à ces influences tout en conservant une identité moderne. En 2008, paraît leur premier album, The Age of the Understatement. Dès sa sortie, l'album surprend le public. Ceux qui s'attendaient à retrouver le son nerveux et direct d'Arctic Monkeys découvrent au contraire un univers riche en orchestration. Les chansons sont accompagnées de cordes majestueuses arrangées par Owen Pallett, ce qui donne à l'ensemble une dimension presque cinématographique. Le morceau-titre, The Age of the Understatement, résume parfaitement l'identité du groupe. On y retrouve des mélodies grandioses, une énergie rock et un sens du drame qui rappelle parfois les bandes originales des films d'espionnage des années 60. D'autres titres, comme Standing Next to Me ou My Mistakes Were Made for You, démontrent la capacité du duo à écrire des chansons élégantes et ambitieuses. Le succès est immédiat, l'album atteint la première place des ventes au Royaume-Uni et reçoit un excellent accueil critique. Beaucoup de journalistes saluent la maturité du projet et sa capacité à s'éloigner des tendances dominantes du rock indépendant de l'époque. Pourtant, après cette réussite, le groupe disparaît presque aussi vite qu'il est apparu. Alex Turner retourne se consacrer à Arctic Monkeys, tandis que Miles Kane poursuit sa carrière solo. Pendant plusieurs années, les fans se demandent si cette aventure connaîtra une suite. Il faudra attendre alors 8 ans pour obtenir une réponse. En 2016, The Last Shadow Puppets fait son retour avec un deuxième album intitulé « Everything You've Come to Expect ». Entre-temps, les deux artistes ont évolué. Alex Turner a développé une écriture plus sophistiquée et plus introspective, tandis que Miles Kane a gagné une expérience en tant que chanteur et compositeur. Ce second album conserve l'élégance orchestrale du premier, mais adopte une approche plus variée. On y trouve des morceaux comme Aviation, Miracle Aligner ou encore Bad Habits, qui montrent un groupe plus confiant, plus libre dans ses expérimentations. Visuellement aussi, le duo soigne son image, les clips, les costumes et l'esthétique générale évoquent souvent le cinéma européen des années 60-70. Cette dimension visuelle contribue fortement à l'identité du groupe. The Last Shadow Puppets ne se contente pas de produire de la musique, il construit un véritable univers artistique. Ce qui rend ce projet particulièrement intéressant, c'est la complémentarité entre ses deux membres. Alex Turner possède une voix grave et un style d'écriture souvent marqué par l'ironie et l'observation du quotidien. Miles Kane, lui, apporte une énergie plus directe et un sens mélodique très efficace. Ensemble, ils créent un équilibre qui distingue The Last Shadow Puppets de leurs autres projets. Le groupe occupe également une place singulière dans le rock britannique contemporain, à une époque où de nombreuses formations privilégient des productions minimalistes ou électroniques. The Last Shadow Puppets assume pleinement son goût pour les arrangements luxuriants et les références au passé. Pourtant, leur musique ne paraît jamais nostalgique. Au contraire, elle réinterprète ses influences classiques avec une sensibilité moderne. Aujourd'hui, The Last Shadow Puppets n'a publié que 2 albums studio, mais son influence dépasse largement cette discographie relativement modeste. Le groupe est devenu une référence pour de nombreux amateurs de rock orchestral, de pop baroque. Chaque rumeur de retour suscite d'ailleurs un vif enthousiasme parmi les fans. Finalement, The Last Shadow Puppets représente l'exemple parfait, d'un projet parallèle qui a réussi à développer une identité propre. Grâce au talent d'Alex Turner et de Miles Kane, le groupe a su mêler ambition artistique, élégance musicale et créativité visuelle. Même avec seulement 2 albums, il a laissé une empreinte durable sur la musique britannique du 21e siècle. Je vous propose d'écouter du coup Pattern de la Shadow Puppets, donc cet extrait de leur 2e album Everything You've Come to Expect.
Good to just cut me off. You just set me straight. If you know me like you think you do, you just sell me on off. You just read me the news. If you know me like you say you do.
Déjà à la fin de cette émission, on vous en écouter If You Know Me de Hudson Freeman. Vous pourrez écouter cette émission bien sûr en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis bien sûr à demain.